Allons-y avec notre invité qui vient de s'installer sur le plateau de la radio africaine. J'accueille avec plaisir José Nzolani. Merci de nous rejoindre. Vous êtes promoteur culturel, vous êtes animateur radio, mais aussi auteur. Et c'est avec cette casquette que vous êtes venu nous voir ce matin pour nous parler de votre dernier projet. C'est un ouvrage que l'on peut accompagner financièrement parlant. On y reviendra tout à l'heure puisque c'est une campagne de crowdfunding que vous avez lancée sur la plateforme Ulule pour financer l'édition de cet ouvrage. Donc ça s'appelle « L'épopée des maquisards ». Balade à travers les méandres de la rumba congolaise et ses contextes socioculturels. C'est bien cela ?
Bien. Bonjour Aïssa Cham. C'est un plaisir d'être à tes côtés pour parler de ce projet qui nous tient beaucoup à cœur.
Alors, vous êtes spécialiste de la rumba, vous êtes animateur sur une radio associative depuis quelques années déjà. Oui. Vous présentez deux émissions. Le Miroir, où vous traitez des questions de société à travers les textes de chansons.
Oui.
Et au son de la rumba, vous partagez dans cette émission avec les auditeurs les trésors de la rumba d'aujourd'hui et d'hier.
Tout à fait. Parce que, vous voyez, bien que j'écris, je suis défenseur de la tradition orale africaine. Et alors, avec l'émission Les Miroirs, j'essaie un peu de mettre en avant cette tradition africaine qu'est la tradition orale. C'est-à-dire que je fais des débats au pas de la société à partir des textes des chansons. Et des fois, il n'y a pas que des chansons, des proverbes, des contes et tout ça. À travers Les Miroirs, d'où son nom. Et au son de la rumba, je m'efforce de démontrer à qui veulent m'attendre que la rumba n'a pas d'origine caraïbéenne, mais ce sont des musiques africaines qui, comme dans les commerces triangulaires, a été amenée au Nouveau Monde et nous est revenue en Afrique sans savoir que c'est notre produit. C'est un peu comme le coton qu'on prend en Afrique, arrivé chez nous sous forme de chemise, on dit « Ah !» sans savoir que c'est le même coton qu'on a pris chez nous. Vous voyez, c'est un peu ce que j'essaie de démontrer.
Alors justement, à travers des ouvrages, à travers votre blog également, nzolani.net,
oui.
Où il y a tout plein d'informations sur la rumba, sur l'histoire de la rumba. Vous publiez différents articles sur vos coups de cœur, sur vos inspirations. Et vous êtes également auteur, puisque vous avez publié un ouvrage qui s'intitule « Kinshasa, la rumba au cœur de l'Afrique ».
Tout à fait.
Alors, qu'est-ce que c'est comme ouvrage ? Racontez-nous un petit peu.
Alors, ça, c'était un projet que j'avais... j'ai pas eu d'éditeur, vous voyez ?
Oui.
La rumba, ils disaient « Ah, c'est trop gros » parce que c'était près de 500 pages.
Oui.
Et du coup, en cherchant des éditeurs, j'ai trouvé à 6000 et j'ai publié les Lingala des poches, les guides Lingala des poches aux éditions Assimi.
Depuis,
ouais. Ils m'ont fait passer pour adaptateur. C'est moi qui suis l'auteur. Comme il y avait déjà une version Lingala allemand,
ouais.
Et qu'on peut pas avoir les mêmes titres chez les mêmes auditeurs. Ils m'ont dit, est-ce qu'on peut te faire passer pour un adaptateur? Moi, ça me dérange pas. Du moment que je fais la promotion de la culture africaine, peu importe adaptateur, auteur, etc. Mais, j'ai suivi les cahiers des charges et c'est mon inspiration.
Alors, ouais. L'ouvrage dont on parle, que vous êtes venu promouvoir, puisqu'il reste encore un petit peu, il manque encore un petit peu d'argent, mais pas beaucoup, puisque vous êtes déjà à 63%
oui.
De votre cagnotte. Alors, l'épopée des maquisards. Alors, vous nous apprenez que vous avez emprunté le titre à un groupe créé en mai à 68 en Afrique centrale, une formation musicale. En réaction aux situations que vivaient ces jeunes artistes, donc ils se sont fait appeler Festival des Maquisards, c'est ça ?
Tout à fait. Alors, cette idée d'histoire, vous voyez, on parle toujours, oui, mai 68. Il faut savoir qu'en 68, il s'est passé beaucoup de choses, des révoltes, des mouvements sur la planète, même en Afrique.
Oui.
Et qu'il y a des événements qui se sont passés en Afrique qu'on n'en parlait pas. Et on parle souvent des aspects politiques. Et moi, je voulais montrer aussi l'aspect culturel. Parce que ces jeunes-là, les maquisards, c'est musiciens, mais qui ont fait des études.
Oui.
Bon, il y en a qui étaient universitaires, fonctionnaires d'État, professeurs, mais qui faisaient la musique comme loisir. Mais ils ne supportaient plus l'exploitation que faisaient les patrons d'orchestre.
Oui.
Et ils se sont révoltés. Ils se sont révoltés pour créer leur groupe. Et un des patrons, les voyant créer leur groupe, à l'époque, il y avait une base militaire de l'armée de lutte pour la libération de l'Angola qui était à Kinshasa. Et cette base, on appelait Maki.
Oui.
Et comme il y avait aussi des musiciens d'origine angolaise comme Sam Mangwane et Michelino Mavatiku, et les patrons étaient en colère, les a traités de bande de maquisards.
Oui.
Et ils se sont dit, oh, ça tombe bien, on cherche un nom pour notre groupe. Désormais, on s'est fait appeler maquisards. Et il y a Michelino qui a proposé le nom Fiesta. Fiesta, donc festival, donc les maquisards en fait. Et leur chanson, et c'est ce que je mets dans la deuxième partie du livre,
oui.
On entend souvent parler, ah, c'est une histoire d'amour, mais quand on gratte bien, ce sont des revendications, ce sont des messages qui sont passés. Par exemple, la première chanson du festival de maquisards, Zelangana Sala, ça veut dire « Patiente que je travaille ». Ils dénoncent comment est-ce que des patrons exploitent les salariés,
oui.
Ils vivent bien avec leur famille, avec leurs chiens, pendant que les salariés souffrent, eux, ils sont contents. Et dans la chanson Zelangana Sala, ils disent... Bon. Et en même temps, les maquisards, c'est le premier groupe de jeunes,
oui.
Hein, qui a vraiment lancé l'impulsion. On a eu plus tard des Touzaïna, des Zaï Kolangalanga, des Papa Wemba. S'il n'y avait pas des maquisards, je ne sais pas s'il y aurait eu des jeunes autogérés qui créent leur groupe. On est en 1968. Ils ont fait leur sortie le 12 mai 1968.
Oui.
Voilà. Et... quelques mois après, il y a eu les révoltes des étudiants,
oui.
De Lovanium, de l'université de Lovanium. Et parmi ces étudiants, il y avait aussi un maquisard dedans.
D'accord.
Vous voyez? Donc, pour vous dire que les mouvements des jeunes, et chaque maquisard avait un ami ou des amis au campus universitaire de Lovanium, de Kisangani, de Lubumbashi. Vous voyez? Donc, ils étaient en connexion. Et pour finir, les maquisards ont aussi contribué à réconcilier les intellectuels et la musique, vous voyez.
Alors, vous nous parlez donc de cette histoire dans un contexte historique mondial. Alors, vous le dites, l'événement, l'année 1968 a été marquée par de nombreux événements. Le printemps de Prague, l'assassinat du pasteur Martin Luther King,
oui.
Les révoltes des jeunes un peu partout dans le monde, les Jeux Olympiques de Mexico. C'était important également de retracer cette histoire dans un contexte mondial et global.
Tout à fait. Pour placer les maquisards dans ce contexte mondial, parce que tous ces événements, on parle souvent des événements politiques.
Oui.
Mais quand je cite Mexico, les Jeux Olympiques de Mexico ont commencé 10 jours après la répression des étudiants à la place à Mexico. C'était sanglant. Mais avec les Jeux de Mexico, on a parlé aussi comment est-ce des sportifs pouvaient faire passer des messages. On pense à John Carlos et Tommy Smith,
oui.
Qui ont levé des gants noirs, les têtes baissées pendant l'hymne américaine. Et on oublie, on ne cite pas George Foreman qui est venu à Kinshasa en 1974,
oui.
Quand il a gagné sa médaille d'or. Au lieu de célébrer sa victoire américaine, il a pris un petit drapeau américain sur le ring, au lieu de mettre, de draper la bannière étoilée américaine. Non, un petit drapeau. Et il a été critiqué, mais ça, on ne signale pas. Et vous voyez, les mouvements de 68, et dans tous les domaines, les jeunes se sont exprimés. Et il y a quelque chose que je souligne quand même dans les livres. Pourquoi 68? La plupart des jeunes qui se sont révoltés, ils avaient... autour de 20 ans,
oui.
À 68. Donc, ils n'ont pas connu la guerre. Vous voyez, ils n'ont pas connu la guerre. Et ce sont des pacifistes, c'est des jeunes. Et nous autres, moi qui parle, je suis aussi héritier de ces gens-là. On n'aime pas se laisser faire, on n'aime pas se laisser exploiter. On aime bien être indépendant, digne.
Alors, on a vu après la tournure qu'a pris un petit peu la rumba pour commencer à s'essouffler aujourd'hui. En 2018, c'est quoi le bilan que vous faites lorsque vous écoutez aujourd'hui la rumba de 2018 comparée à celle de 1968?
Alors, moi, j'ai une réponse là-dessus. Je vais donner la réponse qu'a donnée Franco Luambo Makiadi. Hein, et je donnerai ma réponse à moi.
Allez-y.
Alors, Franco Luambo Makiadi, quand on lui parlait des baisses de la rumba, il disait non, la rumba est toujours à l'endroit où vous l'avez laissée. C'est comme le jazz. Le jazz est toujours là. Et ça, on n'interdit pas aux autres de faire leur musique. Ceux qui veulent faire du rock, ils font du rock. Ceux qui veulent faire du disco. Et si les gens veulent écouter le jazz, ils savent vous trouver le jazz. C'est un peu comme la rumba. Pour moi, la rumba n'est pas morte. Elle est toujours là. La musique, c'est un être vivant. Et comme tout être vivant, subit les influences. Subit les influences des milieux où ils sont. Vous voyez? Et la rumba n'est pas la rumba de Wendo aujourd'hui. La rumba n'est plus la rumba de Grand Calais. Mais il y a la base qui est toujours là.
Oui.
Quand j'écoute les zouks, c'est le même fondement que la rumba. Vous voyez? Quand j'écoute Dikok de Kassav, c'est le même schéma que la rumba. Donc la rumba est toujours là, n'est pas en baisse. Et ceux qui veulent les trouver, ils les trouvent. Et pour
mais,
donner...
Je parlais plus de l'engagement, du sens dans les textes.
Tout à fait, mais je suis en train d'arriver.
D'accord.
Et maintenant, la rumba a pris d'autres formes par nos enfants, par les enfants des pères fondateurs de la rumba moderne. Quand on voit maintenant des maîtres Gims et des Youssoufa, tout ça, ils ont suivi les chemins de leur papa. Parce que la musique a changé. C'est du rap, mais les messages restent presque identiques à ce que faisaient leurs parents, vous voyez. Et ce n'est plus les mêmes danses, vous voyez. Donc la rumba traditionnelle, on les danse à deux. Mais le monde moderne maintenant, comme l'évolution de la technologie,
oui,
on favorise plus l'individu qu'au groupe. Avant, on allait au cinéma, on s'émerveillait tous. Maintenant, on a un cinéma individuel. C'est un peu comme la musique aussi. La musique favorise plus l'individu. Et quand on va en boîte, on voit très peu de couples danser. Les gens dansent tout seuls, souvent devant la glace, pour montrer la société, comment la société devient de plus en plus égoïste. Vous voyez? Donc la rumba est toujours là.
Alors c'est quoi l'objectif en faisant ce livre? Qu'est-ce qui vous anime? Pourquoi ce livre?
Alors, pourquoi ce livre? Vous savez, notre histoire. Alors, je suis partisan de la tradition orale. Alors, je vais commencer par la tradition orale. Dans les histoires des lions et des chasseurs, c'est souvent le chasseur qui a gagné. Les jours où le lion va raconter son histoire, on va voir l'histoire autrement. Alors, pourquoi j'écris ce livre? C'est un livre d'histoire d'abord, pour, au lieu qu'on attende d'autres viennent parler de notre histoire, pourquoi pas nous-mêmes qui ont vécu ces événements, parler de l'histoire, rendre hommage aux héros, vous voyez? Aujourd'hui, quand on voit par exemple des rappeurs,
oui,
beaucoup de rappeurs sont d'origine congolaise. Et moi, je me suis posé la question, pourquoi? Et à travers ce livre, on peut avoir quelques explications, parce que quand on voit des salles comme Bercy, on appelle maintenant Arena, je ne sais pas,
oui,
quoi. Hein? Bon, moi, je dis...
Arena, je ne sais plus comment...
Ouais, bon, moi, je dis Bercy, tout le monde comprend.
Oui.
Les Zénith, les musiciens africains, je dis africains, pas seulement congolais, remplissent des grandes salles de Paris sans tapage médiatique traditionnel. Ils ne vont pas chez Dricker ou je ne sais pas qui, mais ils remplissent, vous voyez? Et les gens se posent des questions, comment ils font? Alors, ils ne savent pas que les germes ont été posés, hein, par des anciens comme les Bembea Jazz,
oui,
comme les Makiza, comme les Aiko Langa Langa, etc. Et que ce sont des musiques, et quand on écoute ça, et on dit, ah, telle personne va jouer, ah, Kofi va jouer, Werason, les gens affluent pour voir la nostalgie de cette musique qui est souvent malmenée, mais qui est toujours là.
Mais il y a une réalité quand même, le mouvement des combattants et ces artistes qui n'arrivent plus à se produire en Europe.
Alors, les mouvements des combattants...
Ça vous attriste?
Non. Non, parce que moi, parmi les combattants, il y a des amis, vous voyez? Parce que, vous savez, l'œuvre d'art, ok? L'œuvre d'art, quand ça sert la société, ok? Les combattants ne sont pas contre la culture, hein? Ce ne sont pas des talibans, mais ils sont contre certaines formes de culture où on maîtrise l'image de la femme, vous voyez? Je ne cite pas des noms de certains artistes pour ne pas leur faire de la publicité. Ou, au lieu de penser aux problèmes du pays, et ils font l'apologie de ceux qui sont en train de détruire nos patrimoines. Alors, les combattants, ça leur met en colère. Là, je ne suis pas d'accord avec les combattants. Ça, c'est mon point de vue. Je ne crois pas que par la violence qu'on résout tout. Parce que la violence, un homme, si jamais il y a un moustique qui se pose sur ses parties génitales, essayez d'appliquer la violence pour tuer ces moustiques et vous allez comprendre les limites de la violence.
Alors, c'était quoi l'objectif en venant ce matin parler de cet ouvrage et parler un peu de votre passion pour la rumba congolaise? C'est quoi l'objectif?
Alors, l'objectif, d'un côté, c'est pour faire connaître aux auditeurs qu'il y a un livre qui est fait par des témoins directs de cette musique. Et aussi,
là, vous avez interrogé, enfin, vous avez fait des enquêtes, vous avez interrogé.
Oh oui, je ne fais que ça.
Combien de temps ça vous a pris, la rédaction du livre?
Je ne fais que ça. Alors, la rédaction où je me suis assis pour écrire, 2 ans. Mais les recherches, ça a commencé depuis les débuts des années 80.
D'accord.
Et surtout, ce qui m'a vraiment propulsé pour faire des enquêtes et tout ça, ma rencontre avec le Seigneur Taboulé Rochereau.
Oui.
Qui m'a adopté comme si j'étais un de ses enfants. Et je lui rends hommage, là où il est. Il m'a ouvert la porte. C'est lui qui m'a fait connaître d'autres musiciens. Et j'ai pu interroger, j'ai pu interviewer mes idoles. Vous voyez, j'ai rencontré presque tous les acteurs et j'ai eu des réponses. Et moi-même, j'ai fait des voyages pour aller chercher des informations. Et pour anecdote...
Justement, je voulais vous demander quelques anecdotes, quelques histoires croustillantes.
Oui, alors, par exemple, quand on dit que la rumba a des origines espagnoles, et je me suis permis d'aller en Espagne, je fais le tour de l'Espagne, et j'ai découvert d'autres choses que la rumba. J'ai découvert qu'au Pays Basque, ils ont la musique basque, j'ai découvert en Catalogne, ils ont leur musique. En Andalousie, j'ai découvert une musique qui est proche de la rumba.
Oui.
C'est pas la rumba. Ouais, c'est pas la rumba. Et le plus au sud d'Espagne, c'est quoi? C'est le Maroc. Je suis allé au Maroc, je fais le tour du Maroc, j'ai vu des musiques arabes et j'ai commencé à être déçu. Et dans le désert de Mezourga, j'ai vu une musique, des gens dansaient, une danse qui était proche de la rumba. J'ai dit, c'est quoi cette musique? Ils m'ont dit, c'est du Guinawa. Bon, je ne connaissais pas. Qu'est-ce que c'est les Guinawa? Ouais, les Guinawa, c'est tout ce qui est musique qui vient du sud du Sahara. Alors, ça me ramène dans les pays bantous. Vous voyez? Parce que moi, dans mon livre, j'explique, par exemple, la rumba vient des pays bantous. Mais par contre, les rock, les funk, viennent des pays de l'Afrique de l'Ouest. Quand on voit en Afrique de l'Ouest, leur musique, ils se servent de jouer les tam-tam avec un orché. Et en Amérique du Nord, la batterie, c'est des orchés. Mais quand on va dans les Antilles et tout ça, dans les Caraïbes, on joue à main nue. Vous voyez? Et leur façon de danser, Sénégal, Mali, où il y a beaucoup de pasteurs, des bergers, donc c'est-à-dire des nomades, ils dansent avec les pieds.
Ouais, les sauts.
Ah oui, les sauts de musique, ils dansent avec les pieds. Et les peuples bantous qui sont sédentaires, ils font trémousser les bassins.
Oui.
Et pourquoi trémousser les bassins? C'est la rumba est avant tout la danse de la procréation. Vous voyez? Tout le monde fait de la rumba sans le savoir, comme M. Jourdain faisait de la prose sans savoir qu'il faisait de la prose.
C'est une danse très sensuelle.
Sexuelle, oui. Parce que rumba, dans ma langue maternelle, c'est dit kumba. Vous voyez? Ma langue maternelle est kikongo.
C'est donc le nombril. Non?
Kumba, oui, c'est le nombril. Ouais. Voilà. Alors, le nombril, pourquoi le nombril? Parce que pour avoir l'être humain, on fait l'acte de la procréation qui se dit Zumba. Et je suis heureux d'apprendre qu'il y a une danse qui s'appelle Zumba. Or, Zumba, ça veut dire acte sexuel dans ma langue maternelle.
D'accord.
Oui, Zumba, Taki Zumba. En Kikongo, là où il y a des parents, il ne faut pas les dire. Vous voyez? Alors, à partir de cet acte qu'on fait à l'horizontale, et on danse à la verticale. Et après, l'enfant est porté par la femme qui se dit Ndumba. Ndumba. Et quand l'enfant est né, il est attaché à la mère par les nombrils, qui se dit Kumba. Et quand on danse, on se frotte les nombrils et on se fait cambrer les reins.
Oui.
Voilà, et ça, ça dit Kumba. Et comment de Kumba, c'est devenu Rumba, Rumba et après Rumba, ça, il faut qu'on poursuive les recherches pour savoir.
Alors, ouais. Il reste 3 minutes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le livre? Est-ce qu'il y a d'autres, je ne sais pas, peut-être des portraits d'artistes, de chanteurs de grande voix, non?
Ah oui. Et là, bon, il y a quelques anecdotes, par exemple. Quand on écoute, par exemple, certaines chansons, je prends un exemple de la chanson de Dino Vango, qui aide. Bon. On attend parler de la femme. En fin de compte, ce sont des diatribes qu'il adresse à ses anciens collègues. Vous voyez?
D'accord.
Et à ses anciens collègues qui ont fait toute une cabale pour les virer des groupes. Et il s'adresse à eux. Et aussi, il y a d'autres anecdotes. On chante une chanson, vous voyez? Il y a Mbila Bel qui chante « Quelle méchanceté hein? ».
Oui.
Alors, c'est... Pongolov plutôt, qui chante la chanson « Déception d'amour ». Une chanson d'amour, mais sans le savoir, Pongolov est en train de chanter la vie de l'auteur, qui est Dino Vang, vous voyez? Oui. Et qui parle. Et dans ce livre, il y a des fois des gens qui chantent sans savoir qu'ils se chantent contre eux-mêmes. Ce qu'a fait le saxophoniste Mpopoloai, il a donné une chanson au Seigneur Tabulaire Oshoro et Mangwana de chanter. Et dans la chanson, sans le savoir, ils se chantaient contre eux-mêmes, vous voyez? Alors, il y a des anecdotes comme ça, parce que manque de temps, je ne peux pas trop développer.
Oui. Qu'est-ce que tu avais envie de dire pour terminer au public qui nous écoute? Comment on fait si on veut apporter sa contribution? Comment on fait aussi pour se procurer ce livre une fois qu'il sera à disposition?
Alors, bon, voilà, il y a la façon simple. Vous allez dans mon site, www.nzolani.net, vous verrez les liens qui amènent dans la plateforme Ulule pour contribuer. Et une fois... Le livre va être publié. En tout cas, si tout va bien, les mois prochains, les mois de mai, le livre sort pour coïncider avec les 50 ans des événements cités dans les livres et que vous allez dans mon site www.nzolani.net et vous verrez toutes
les informations
qu'il faut. Et je peux donner rapidement les liens.
Allez-y.
Alors, les liens pour aller, donc c'est...
Alors, je laisse.
Ouais. Vous y allez ou j'y vais
fr.ulule.com/épopée-d-maquisard au pluriel.
Tout à fait.
Merci beaucoup d'être venu. Un tout dernier mot, il reste 40 secondes.
Oui. En tout cas, moi, je suis très, très content d'être avec vous parce que Aïssa Thiam, et quand j'entends le mot Thiam, je pense à un ami, Jean-Bruno Thiam. C'est celui qui a traduit le mot Lisanga Banganga pour dire l'igno des génies. Quand Franco et Rochereau se sont rencontrés au début des années 80 pour chanter ensemble.
Papa Thiam que je salue.
Papa Thiam que je salue, et c'est un monsieur, un grand monsieur. Et ce nom-là, rien qu'avec son nom, c'est l'unité de l'Afrique qu'on retrouve.
Merci.
Parce qu'il est sénégalais, congolais. Voilà.
Merci d'être venu sur le plateau de la radio.
Merci,
c'est très intéressant.
Merci.
11h26, c'est la pause, on se retrouve juste après en musique, ne bougez pas.
Merci.